BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer.
Il fait froid sur une grande partie de la France. Eh bien, on va ouvrir les portes du congélateur et dégivrer vos placements, les sortir du glacis pour les confronter aux solutions d'investissement d'aujourd'hui. 3 heures de dégivrage jusqu'à 18h. Il nous reste, en reste donc 2 à passer ensemble et on est ravis de vous accompagner comme chaque jour au rythme des marchés. Bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez d'ailleurs en direct, il est 16h03 et notre CAC 40 recule un peu plus désormais. On perd 0,6%. On s'approche des 7000, même si on reste un peu au-dessus. 7010 points. On va rejoindre dans un instant, bien sûr, Etienne Braque depuis la tour Euronext. Le rallye semble rouillé. Rallye rouillé, oui, sur les marchés. En tout cas, depuis quelques jours, on sent les indices s'essouffler un petit peu. Il faut dire que les publications des entreprises sont moins encourageantes que lors des trimestres précédents. On a quelques déceptions. Aujourd'hui, Kimberly-Clark aux États-Unis. Également Boeing qui déçoit et qui recule. On a vu aussi Texas Instruments accuser la première baisse de son chiffre d'affaires trimestriel depuis 2020. Et puis Microsoft. On attendait de pied ferme la publication de Microsoft hier soir et la réaction de Wall Street. Bien, sans surprise, on a donc un net repli de Microsoft aujourd'hui sur le marché américain. Microsoft perd un peu plus de 4%, si bien d'ailleurs que le Nasdaq signe la plus forte baisse des 3 indices américains. Le Nasdaq perd un peu plus de 2%. Il ne profite pas, le Nasdaq, de cette détente obligataire. Aujourd'hui, on a une légère baisse des taux obligataires, mais compte tenu de la publication de Microsoft, le Nasdaq souffre malgré tout. On va en parler. Donc, John Plassard sera avec nous dans quelques instants, comme chaque après-midi. Puis, on n'oublie pas les autres placements, l'immobilier. Si vous souhaitez y investir, la baisse des prix dans l'immobilier est-elle en train d'accélérer? C'est Brice Cardi, le PDG du réseau L'Adresse, qui tente de nous répondre aujourd'hui. Il nous accompagne cet après-midi sur BFM Business. Puis, on parlera aussi tout à l'heure des cryptos dans le club BFM Crypto à 16h35. Et on parlera notamment de cet écosystème crypto rassuré depuis quelques heures, depuis un vote hier soir au Parlement français. On vous explique à tout en détail, comme chaque après-midi, donc à partir de 16h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant encore quasiment 2 heures. Tout de suite, Faiza également nous rejoint, Faiza Younzi, pour parcourir l'ensemble de l'actu économique du jour.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le net recul du chômage en France, il a baissé de 3,6% en catégorie A au quatrième trimestre après avoir stagné au trimestre précédent avec 114 000 demandeurs d'emploi inscrits en moins. Le niveau de chômage en France atteint son plus bas niveau depuis 11 ans sur cette catégorie. L'économie allemande devrait échapper à la récession cette année selon le gouvernement. L'activité résiste mieux que prévu aux conséquences de la guerre. En Ukraine, l'Allemagne devrait enregistrer une croissance de 0,2% en 2023 alors que Berlin prévoyait il y a peu une contraction de 0,4% du PIB. La réforme des retraites, toujours de l'actualité en France, les leaders syndicaux viennent de se réunir pour organiser la mobilisation dans la durée. Du côté de la RATP, l'intersyndicale appelle à la mobilisation pour le 31 janvier prochain, pour la deuxième journée de grève nationale à la SNCF. La CGT Sud se prépare par ailleurs à une grève reconductible à partir de la mi-février. Dans l'actualité des entreprises, Boeing maintient ses prévisions pour cette année, malgré des résultats trimestriels décevants, avec un chiffre d'affaires de 20 milliards de dollars et une perte nette de 630 millions de dollars. L'activité du constructeur américain reste freinée par les problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement. Alstom a publié un chiffre d'affaires en hausse de 8% sur son troisième trimestre décalé à fin décembre à plus de 4 milliards d'euros. Le constructeur ferroviaire est porté par la demande européenne qui est plus forte que prévue. Le groupe ferroviaire confirme ses objectifs pour cette année. Après la panne mondiale, les services de Microsoft sont rétablis. La panne de réseau a mis hors de service ce matin sa plateforme Azure ainsi que Teams et Outlook. Seuls les services en Chine et la plateforme dédiée au gouvernement n'ont pas été touchés. Et on termine avec cette perquisition dans les locaux de BNP Paribas à Francfort. D'après le quotidien allemand Handelsblatt, ces perquisitions sont réalisées dans le cadre des Cum-Ex-Files, une affaire de fraude fiscale qui avait été révélée par plusieurs médias internationaux, dont Le Monde, une affaire qui porte sur plusieurs milliards d'euros.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Merci Faiza, vous nous accompagnez tout au long de l'après-midi, bien sûr. On est sur tous les fronts et sur le pont en ce jour important. Les publications qui accélèrent aux États-Unis, vous l'apercevez dans le grand mur d'image de BFM Business. Si vous nous suivez à la télévision ou sur l'appli BFM Business, John nous accompagne. John Plassard, bonjour John. On va parler dans un instant des États-Unis et de Wall Street qui recule très nettement après de nombreuses publications. Ouais, le temps change sur les publications d'entreprises. C'est pas la cata, mais c'est quand même beaucoup moins brillant que lors des trimestres précédents. On viendra en détail sur tout ça dans un instant. Et puis Étienne aussi nous accompagne depuis la tour Euronext. Rebonjour Étienne. Nos marchés européens, du coup, accélèrent un tout petit peu à la baisse.
Oui, séance de pause aujourd'hui et un CAC 40 qui est en train de mettre en danger les 7000 points puisqu'on est à 7017 points. En séance, on a même perdu ce seuil symbolique. Actuellement, c'est une baisse de 0,5%. Pas si mal, hein, puisque quand vous regardez la baisse du côté des États-Unis, c'est une baisse bien plus forte. Nasdaq qui perd 2%. Vous avez un Dow Jones qui perd 0,7%. Des marchés qui attendent depuis plusieurs jours, voire même depuis plusieurs semaines, les publications d'entreprises. Et là, ces dernières heures, on a des publications qui coincent un petit peu. On vient d'en parler. Boeing, Microsoft, des titres qui sont en baisse. On en reparlera dans un instant. Vous avez ASML également qui est mal orienté du côté d'Amsterdam. Et puis chez nous, à Paris, on a eu la publication, le chiffre d'affaires de Alstom avec un groupe qui confirme ses objectifs, qui ne revoit pas à la hausse ses objectifs financiers et un titre qui est sanctionné puisqu'Alstom perd 0,4% à l'instant. Un titre qui repasse sous les 27 euros. Dans un environnement de doute, bien sûr, on a des investisseurs qui reviennent sur les valeurs défensives. C'est assez simple. Quand vous regardez les plus fortes hausses de l'indice parisien, ce sont des valeurs défensives. Hein. Veolia en tête de l'indice, plus 0,6%. Vous avez Air Liquide également qui surperforme le marché, idem pour Sanofi. Alors qu'à l'inverse, les valeurs cycliques et surtout les valeurs de la tech sous-performent très nettement dans le sillage de ce qui se passe aux États-Unis. Dassault Systèmes, plus forte baisse, moins 2%. Vous avez également Capgemini qui perd 1,5% à 170 euros. Et puis Total Energy également qui est en recul aujourd'hui, moins 1,7%. Titre qui redescend sous les 58 euros alors que les cours du pétrole font une pause avec notamment un baril de Brent qui perd 0,6% et qui redescend sous les 86 dollars. À noter que le marché obligataire recule aujourd'hui avec un 10 ans français qui perd 9 points de base à 2,56 ou encore un 10 ans américain qui perd 4 points de base à 3,43. Habituellement, c'est favorable aux valeurs de croissance, mais vous en reparlerez dans un instant. Vu le contexte avec les publications aux États-Unis, on a des valeurs de croissance, en particulier les valeurs de la tech, qui sous-performent aujourd'hui.
Et puis, pas de jaloux, en Europe aussi, on a notre valeur de croissance qui souffre aujourd'hui, notre géant mondial des semi-conducteurs, ASML, repli assez net aujourd'hui du titre Amsterdam.
Et quelle valeur de croissance, hein, puisque vous avez un groupe qui prévoit une croissance de son chiffre d'affaires de 25% en 2023. Donc c'est vraiment l'une des valeurs très importantes en Europe, hein, puisque quand vous regardez sa capitalisation boursière, on parle quand même d'une capitalisation de 240 milliards d'euros. C'est l'une des plus grosses sociétés en Europe, avec LVMH, avec Nestlé ou encore Novo Nordisk. Leur métier, c'est de fabriquer des machines qui font la taille d'un bus afin de fabriquer des semi-conducteurs, avec un carnet de commandes qui est impressionnant, 40 milliards d'euros, hein, c'est quasiment deux fois le chiffre d'affaires de l'année dernière, mais un titre qui est en baisse aujourd'hui, car vous avez ASML qui prévient que les marges ont un petit peu stassé là sur les premières semaines, sur les premiers mois de l'année, avec des recherches et développements, hein, donc ça, ça prend un petit peu de cash à court terme, et puis dans le même temps, inflation salariale, des profils dans la tech qui sont de plus en plus rares, et donc forcément, il faut augmenter les salaires, donc ça va peser un petit peu sur les marges, mais on reste quand même sur des marges très impressionnantes, puisqu'on a un groupe qui prévoit une marge brute comprise entre 49 et 50% au premier trimestre, mais ça, ça déçoit un petit peu le marché, sachant qu'on a un titre qui attendait beaucoup de cette publication, puisque quand vous regardez le cours de bourse, il a quand même gagné plus de 20% en l'espace de 3 mois. Et donc là, on revient sur les 600 euros aujourd'hui. 603 euros, c'est une baisse de 1,9% à Amsterdam.
Étienne Braque, depuis la tour Euronext, on vous retrouvera à la clôture des marchés en direct. Étienne, et vous qui nous suivez à la radio, à la télé, sur l'appli BFM Business, si vous avez des questions, des interrogations sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer à travers ce QR code qui apparaît en direct. Vous le scannez, vous le flashez, vous nous envoyez votre question. Et ce soir, sur les réseaux sociaux de BFM Bourse et BFM Business, Amaury de Tonquédec transmettra votre question à son expert chaque soir, hein, du lundi au jeudi. Donc n'hésitez pas, en scannant ce QR code ou encore si vous nous suivez à la radio, en nous envoyant vos interrogations, vos questions par mail à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr.
BFM Business, BFM Bourse, USA Today.
Il est là, dans la place, John Plassard. Bonjour John. On est ravis de vous retrouver, spécialiste en investissement de Mirabeau. Les indices américains qui donc reculent nettement aujourd'hui. Le S&P 500 recule d'un peu plus d'un pour cent et surtout le Nasdaq perd 2% à cause de ce titre Microsoft qui recule aussi très nettement de plus de 4% après la publication. Est-ce que d'ailleurs, d'après vous, John, le résultat, la publication de Microsoft est un indicateur avancé pour le reste de la tech ?
Bonjour Guillaume. Ben, je pense, oui, parce que vous savez, on en a parlé hier en prévoyant les résultats. On a vu que les bénéfices étaient en dessous des attentes, chiffre d'affaires était au-dessus, une baisse de la croissance dans le cloud. Donc ça, c'était connu. Et ce qui est drôle, enfin, ou intéressant, c'est que juste après la publication des résultats de Microsoft, eh bien, le titre montait de 3% avant la conférence de presse. Et lors de la conférence de presse, c'est là où tout s'est effondré, puisque vous avez un des responsables de Microsoft, qui a annoncé que les ventes du trimestre en cours seront inférieures de 1 milliard, au moins de 1 milliard de dollars au niveau des attentes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que au niveau de la croissance des entreprises dans la technologie, on sait qu'il y a une certaine baisse, notamment dans les bénéfices, mais on voit que l'arrivée d'une potentielle récession, eh bien, empêche les grandes entreprises, notamment, d'investir dans la tech, et que ça pourrait être un peu plus dommageable que prévu. Et je pense que c'est un indicateur avancé pour les futures publications des résultats des entreprises américaines. Et on pourra parler après aussi de Texas Instruments, qui a un peu, qui n'est pas du tout dans le même domaine, mais un peu le même message.
Effectivement, on va en parler dans un instant, mais pour ce qui concerne Microsoft, le groupe prévoit un ralentissement sur son activité cloud et dans le même temps mise de plus en plus, en tout cas investit de plus en plus dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut, en faisant beaucoup de prospectives, imaginer que l'intelligence artificielle devienne le grand relais de croissance si le cloud continuait de ralentir? Et si oui, à quel horizon, pour quelle ampleur? Enfin, comment est-ce que vous regardez cet enjeu-là, John?
Ben oui, c'est clairement la prochaine croissance pour ces groupes, c'est l'intelligence artificielle. On en a parlé assez ces derniers temps. Microsoft a remis 10 milliards de dollars dans ChatGPT de OpenAI, donc le robot avec lequel vous pouvez réellement discuter. Mais ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est que Microsoft a une division qui s'appelle Microsoft Research AI, où vous avez plus de 5000 informaticiens et ingénieurs qui développent les efforts dans l'intelligence artificielle chez Microsoft depuis plusieurs années. Donc l'idée, c'est évidemment de démocratiser l'intelligence artificielle. Et lorsque vous regardez notamment les dépenses en recherche et développement, ben vous voyez que l'année passée, par exemple, eh bien Microsoft a dépensé 12% de ses ventes dans la recherche et développement. Il n'y a pas tout qui va évidemment dans l'intelligence artificielle, mais on voit que c'est vraiment amené à développer les revenus de Microsoft. Et il faut rappeler ici une chose, c'est que pour l'instant, ChatGPT n'est pas payant, mais va devenir payant et potentiellement pourrait être ajouté au moteur de recherche de Microsoft qui s'appelle Bing. Et là aussi, ça pourrait drainer de l'argent dans le futur. Mais on a l'impression que c'est un peu les prémices de ce qu'on avait eu avec le cloud.
Et du coup, Google tremble pour son moteur de recherche. C'est de la concurrence en plus là, qui se prépare, qui va peut-être finir par émerger. Comment est-ce que, et peut-être émerger d'ailleurs, est-ce que Google réagit là à cette stratégie de plus en plus intelligence artificielle de Microsoft ?
Ben évidemment, ça fait peur au groupe face à Google, mais il faut pas oublier que Google a une division aussi d'intelligence artificielle qui s'appelle DeepMind, qui est très développée. Alors c'est pas un moteur de recherche, mais ça permet de notamment d'optimiser l'efficacité énergétique, ce qui est très important, ce qui leur permet d'économiser de l'argent. Donc là, évidemment, c'est aussi un pan de leur économie qu'ils sont en train de faire chez Google. Mais ce que je dirais, c'est pas forcément Microsoft qui fait peur, c'est plutôt les Chinois, puisqu'on sait que les Chinois sont très en avance dans l'intelligence artificielle. Et lorsque vous regardez en 2021, par exemple, les articles de recherche qui ont été produits sur l'intelligence artificielle, eh bien les Chinois en ont publié le double des Américains. Donc on voit aussi là que la concurrence ne vient pour Google et Microsoft, mais pour Google ne vient pas seulement de Microsoft, mais aussi de la Chine.
Effectivement. Microsoft, actuellement, donc après sa publication, recule très nettement de quasiment 4%. Puisqu'on parle des sociétés, on peut rester dans ces publications. Vous parliez aussi de Texas Instruments. Quelles sont les grandes autres news qu'il faut retenir cet après-midi à Wall Street, John?
Écoutez, vous en avez parlé, Pfizer aussi, Boeing. Ce qui est intéressant à noter sur Boeing qui baisse actuellement, c'est que vous avez une augmentation des livraisons d'avions, vous avez un free cash flow qui devient positif pour la première fois depuis 2018, mais malheureusement, le chiffre d'affaires souffre des composants, vous l'avez dit, mais aussi de l'inflation parce que les choses deviennent de plus en plus chères. Donc ça, c'est une première des choses. Texas Instruments anticipe un chiffre d'affaires, un bénéfice en dessous des attentes à cause de la morosité de l'économie, c'est eux qui le disent, qui est en train de venir. Donc évidemment là, on souffre aussi. On a Tesla qui va publier d'ailleurs ce soir, qui a annoncé son intention d'investir plus de 3,6 milliards de dollars dans son usine dans le Nevada. Et puis finalement, au niveau des sociétés, on a Ford. Vous savez, on a discuté hier, qui avait prévu des licenciements en Europe, va se décider sur le nombre nombre de licenciements dans les mois à venir. C'est pas encore acté.
Et ce soir, justement, après 22h à la clôture de Wall Street, tout le monde, toute la planète finance aura à nouveau les yeux rivés sur les publications. Vous le disiez, puisque Tesla va annoncer ses résultats. On voyait hier déjà sur les réseaux toute la planète finance commenter en direct les résultats après clôture de Microsoft. Ben, ce sera pareil pour Tesla ce soir. Qu'est-ce qu'il faut attendre, John?
Bah écoutez, il y a plusieurs choses. Je dirais qu'il y a 5 points qu'il faut regarder. D'abord, les livraisons, évidemment, c'est ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va scruter, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. Après, les marges brutes. Pourquoi les marges brutes? Parce que vous vous souvenez que sur deux modèles, eh bien, Tesla a baissé ses prix aux États-Unis et en Chine. Donc, normalement, ça devrait impacter les marges. Après, on va regarder les nouvelles sur le fameux 4x4, le Cybertruck, dont on parle depuis de nombreuses années et qui ne vient toujours pas. Après, il y a les questions de CAPEX, est-ce qu'on va agrandir, construire de nouvelles usines? Et puis la dernière chose, c'est sur les batteries et la fameuse batterie qui s'appelle la 4680, qui est une batterie plus grande et qui pourrait vous permettre de conduire plus longtemps. Eh bien, on attend aussi des nouvelles là-dessus. Donc, les résultats de ce soir ne seront pas simplement focalisés sur le nombre de livraisons, mais aussi sur les 4 autres choses dont on a parlé, qui seront très, très importantes.
En attendant, Tesla est en baisse, là, plus que le reste du Nasdaq. D'ailleurs, moins 3,3% ce titre Tesla. L'économie américaine, on parlait beaucoup de cette économie, de ses pulsations à travers ce que nous en disent les entreprises. On a aussi des indicateurs chaque jour intéressants. Ça va d'ailleurs accélérer, hein, les indicateurs en fin de semaine. Aujourd'hui, zoom sur les prêts hypothécaires. Vous avez repéré ce chiffre publié à la mi-journée. Que nous dit-il de l'évolution du marché de l'immobilier et de l'activité américaine?
Donc, c'est sur la semaine qui se termine le 20 janvier. On voit qu'il y a une croissance de 7%. Alors, on me dirait 7%, c'est bien, mais on avait eu la semaine précédente une croissance de près de 28%. Alors, on voit qu'il y a une décélération de la croissance. Mais ce qu'on a noté qui est très intéressant, et vous savez que les Américains, eux, fixent leur prêt hypothécaire à 30 ans, eh bien, on voit ce 30 ans qui est en train de baisser 6,2%. Et ici, on est dans une situation où on est au plus bas depuis 4 mois. Donc, il y a une tendance aussi qui arrive dans cette question de prêt hypothécaire qui pourrait potentiellement faire repartir le marché immobilier, puisqu'on sait qu'il y avait eu évidemment, plus les taux hypothécaires sont hauts, moins les gens achètent de maisons.
Et puis, le plafond de la dette, ça fait maintenant 6 jours, hein, on est à J+6, que ce plafond de la dette a été atteint aux États-Unis. On craignait, on craint peut-être toujours, vous allez nous le dire, que républicains et démocrates ne parviennent pas à trouver un accord, ne cherchent peut-être même pas à trouver un accord pour ce qui est des républicains. On en est où?
Je n'ai aucune intention de laisser les républicains détruire notre économie. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le président Biden. Hier soir, on a eu une réunion. Eh bien, ça a été houleux. Les républicains ne sont pas du tout d'accord avec les démocrates. Les démocrates ne veulent absolument pas dire oui aux baisses des dépenses prévues par les républicains. Donc, on est dans une situation où c'est vraiment le statu quo et potentiellement, vous savez que la date butoir s'étend, la nouvelle date butoir, c'est en juin, eh bien, on se dirige vers un chaos aux États-Unis puisque personne veut avancer d'un pas. On a plutôt l'impression que les deux parties sont en train de reculer chacun et qu'il n'y a aucun accord à prévoir.
Eh oui, le problème, c'est qu'il y a une présidentielle aux États-Unis l'an prochain et que, voilà, chacun souhaite pousser l'autre à la faute. Merci John de nous avoir accompagné. John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabeau. Merci Wall Street en net repli, moins 1,3%. Le S&P, le Nasdaq surtout perd plus de 2%. Notre CAC résiste. On est en baisse, c'est vrai, en Europe, mais une baisse bien moindre qu'aux États-Unis. Une nouvelle fois, l'Europe surperforme. On ne perd que 0,4% à Paris. On préserve les 7 019 points en ce moment.
BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs.
L'investissement socialement responsable chaque jour a son rendez-vous aux alentours de 16h20 sur BFM Business. Les choses avancent. En plus, tiens, la BCE qui a fait un pas de plus hier en lançant une série d'indicateurs climatiques pour verdir elle aussi sa politique monétaire. Oui, mais pour les investisseurs, le chemin reste quand même encore très complexe. Anne-Catherine Husson-Traoré vient de nous rejoindre, directrice générale de Novetic. Bonjour Anne-Catherine.
Bonjour Guillaume.
Et du coup, les régulateurs continuent de durcir le ton vis-à-vis des fonds durables. Les régulateurs constatent que le greenwashing et l'ambiguïté marketing des fonds durables restent très importante, greenwashing quand tu nous tiens. Et donc les régulateurs ont demandé au fonds de faire le ménage dans la présentation de leur gamme.
Oui, alors il y a tous les régulateurs, puisqu'on a déjà l'AMF qui a posé une doctrine, mais en fait ce qui est intéressant là, on va se focaliser sur l'assurance vie. Puisque ce qui est plus nouveau et sans doute peu habituel quand même pour l'ACPR, qui est donc l'autorité de régulation française de l'assurance vie. Elle a publié une recommandation le 14 décembre, assez ferme. Alors, c'est dit en termes choisis, hein, mais enfin, clairement, elle dit que ça peut pas continuer comme ça et qu'on peut pas faire baigner le client d'assurance vie, dont on sait que c'est le placement royal des épargnants, dans un flou artistique. Alors, peut-être rappeler les fondamentaux aux gens qui nous écoutent.
Attachez vos ceintures.
La régulation européenne qui s'appelle SFDR prévoit deux types de fléchage de fonds, ce qu'on appelle article 8, qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance de façon plus ou moins souple. Et puis, ce qu'on appelle toujours les articles 9, qui étaient vraiment ceux qui ont le vent en poupe, qui collectent plus et qui étaient censés avoir une orientation conforme au pacte vert européen, c'est-à-dire vraiment investissant dans une économie durable au sens exigeant du terme. Et là, alors là, tous les voyants sont au rouge. D'une part, l'ESMA, donc qui est l'autorité de régulation des marchés financiers européens, a publié une enquête disant que 0,5% des 3000 fonds qu'elle avait observés étaient compatibles avec les critères d'un écolabel. C'est-à-dire qu'en gros, on a 0,5% des fonds qui, dans leur marketing, sont durables, verts ou autres, qui réellement investissent dans l'économie vert foncé.
Waouh.
Donc ça, premier... en voyant très très rouge. Ce que dit la CPR, c'est de dire effectivement aujourd'hui, il faut clarifier l'offre, il faut aligner l'offre sur la doctrine de l'AMF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse pas planer le doute quand on vous présente un package d'assurance vie sur le fait que parce que vous avez une unité de compte perdue au milieu de beaucoup, que l'ensemble est durable. Parce que ça, c'est une pratique assez forte. Donc en fait, ils ont précisé et en plus, ils ont donné un délai. Ils ont dit, écoutez, au 1er avril, ça doit être clair, c'est-à-dire quand soit vous appelez pas cette assurance vie durable, soit vous avez vraiment plutôt 80% de fonds article 9 ou au moins 75% de fonds article 9 et de fonds labellisés. Là où ça se complique, en espérant avoir perdu personne, c'est que il y a une espèce d'attrition colossale, oui, sur les fonds article 9, puisqu'on a publié une étude en décembre, où on avait un panel initial de 200 fonds classés article 9, qu'on a fait avec le soutien de l'ADEME, et on a vu notre panel fondre, puisqu'on en a perdu 10% début décembre.
10% des fonds 10% qui se déclaraient article 9 ont choisi de s'auto-déclasser article 8.
De s'auto-déclasser article 8, oui. Et pourquoi? Parce que le régulateur européen a précisé ce qu'il attendait des fonds article 9. Et donc, ils ont anticipé, ça devait être au 1er janvier. Et autre chiffre qui est encore plus...
C'est un bel exercice de transparence.
On est bien d'accord. Ouais. Et en plus, autre chiffre assez encore plus spectaculaire, 60% des ETF classés article 9 ont été déclassés avant le 31 décembre. Donc, on a aujourd'hui, effectivement, un paradoxe absolu en termes de marché, puisque vous avez une étiquette qui fonctionne, qui séduit des clients et des investisseurs. Et en fait, quand le régulateur vous dit, bah, écoutez, si vous devez utiliser cette étiquette, ça doit être à ces conditions-là. Alors là, vous dites, bah, oui, mais non, parce qu'en fait, cette étiquette, elle est un peu trop dure à avoir, donc je me retire. Donc on a vraiment un sujet majeur.
C'est un sujet pour tous les acteurs de l'assurance vie, puisque désormais, la réglementation française les oblige à présenter au moins un fonds dans leur gamme, au moins un fonds répondant aux critères de l'investissement responsable.
Voilà. Et en fait, ce que critique la CPR, c'est vraiment le fait que, comme ils sont obligés de le faire, ils en trouvent. Alors en plus, le label ISR, il y a quand même à peu près 800 fonds disponibles. Enfin, c'est pas tant que ça par rapport à la demande de l'assurance vie. Mais les fonds Greenfin, on est en dessous de 50. Donc les fonds labellisés du label vert de finances durables. Donc on a aujourd'hui un sujet. Et du coup, face à la demande qui est réelle des épargnants, les acteurs ont tendance à penser que tout est durable du moment qu'on a une petite touche de durable. Donc là, ça va être très très intéressant d'observer le marché sur le premier trimestre 2023, parce que le régulateur est extrêmement clair et très clairement, il menace à mots couverts, on va dire, de prendre des sanctions.
Mais un fonds article 8, puisque beaucoup de fonds article 9 ont choisi de passer article 8 parce qu'ils ne répondaient pas à tous les critères au niveau d'exigence de l'article 9, un fonds article 8 est quand même ISR ou il n'est pas ISR? Franchement, il rentre dans ce que la réglementation impose aux acteurs de l'assurance vie, à savoir proposer toujours au moins au minimum un fonds ISR?
Bah finalement, on est au pied du mur de ce qu'on avait espéré au lancement de la stratégie finance durable de l'Union européenne en 2018, c'est-à-dire qu'au au fond, la question de la finance durable et de l'ISR en général, c'est à quoi ça sert? Est-ce que ça sert à mettre un peu d'analyse ESG qui peut, selon les périodes, vous amener ou non de la surperformance financière? Ou est-ce que c'est réorienter massivement des flux financiers vers des modèles durables, c'est-à-dire qui sont assez différenciants? Et en fait, on tourne autour de ça, puisque toutes les enquêtes montrent que les investisseurs, surtout les particuliers, mais un peu de plus en plus les institutionnels, ils attendent quelque chose de différent, puisque finalement c'est une logique qui est contraire à celle que vous faites au quotidien, c'est-à-dire de suivre les variations à la nanoseconde d'un indice. C'est une logique de se dire quels sont les modèles résilients. Et donc là-dessus, on voit bien que du point de vue des gérants d'actifs, ils y vont très prudemment et ils ont bien du mal à lâcher la rampe des ETF, et que c'est parce que leur fonds article 9 n'était pas assez différenciant qu'effectivement ils ont préféré les reclasser en article 8. Après, la question reste posée parce que c'était vraiment frappant sur 2022, la différence de collecte entre les deux. Donc si c'est d'un point de vue conformité, vous avez un peu peur de vous faire attraper par la patrouille, c'est logique. En revanche, il y a un vrai sujet commercial sur la capacité à vendre des fonds durables crédibles
parce que
et reconnus comme tels.
Les articles 9 sont de loin ceux qui attirent le plus la collecte.
C'est voilà. Et là où c'est intéressant aussi, c'est que la CPR est une autorité française, mais l'IAIOPA, qui est une autorité européenne, dit exactement la même chose et a fait de l'éco-blanchiment sont une de ses priorités pour 2023.
Et vous jugez incompatible la quête de performance extra-financière, l'investissement responsable et la quête quand même d'un minimum de performance
non,
l'investisseur? C'est
bien
incompatible?
Non, et d'accord. C'est bien sûr pas interdit pour un investisseur de chercher de la performance. Il est clair que c'était plus simple parce que les fonds durables étaient ultra performants avant la guerre en Ukraine. 2022 était une année beaucoup plus difficile pour eux. Mais la logique, elle est surtout finalement, est-ce qu'on regarde en profondeur les modèles dans lesquels on investit pour construire des fonds durables, ou est-ce qu'on se contente d'une analyse ESG rapide ou d'une notation ESG standardisée par MSCI par exemple? C'est ça en fait les sujets. Donc c'est quel horizon de performance surtout, parce que c'est ça le sujet en fait.
Anne-Catherine Husson-Traoré, Novetic, régulièrement à nos côtés. Merci beaucoup Anne-Catherine
Merci
de nous alerter si régulièrement sur les tribulations, les convulsions de cet investissement socialement responsable qui se construit, mais c'est vrai, au prix de certaines douleurs et parfois d'un greenwashing qu'il va falloir peu à peu dompter.
Très clairement, on est dans la phase ménage.
La phase quoi?
Ménage. Grand ménage.
Ah oui, grand ménage.
Grand ménage des régulateurs.
Bon retour Anne-Catherine.
Merci.
Dans un instant, le CAC 40 en direct, la séance du jour, on va rejoindre Romain Daubry, le CAC 40 qui recule de 0,4%. Et à Wall Street, on a du mal à digérer certaines publications. Un Boeing qui déçoit aujourd'hui, Microsoft aussi. Le titre Microsoft perd un peu plus de 3,5%, Boeing perd un peu plus d'1%. Et donc les indices américains dans le rouge vif, S&P 500, moins 1%, Nasdaq, moins 2%. On va aussi en reparler avec Romain dans un instant. On parlera aussi des cryptos dans la prochaine demi-heure, notre club BFM Crypto. À tout de suite.
BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume Sommerer.
Et nos marchés qui tiennent. Alors certes, on a une petite baisse en Europe, c'est vrai. On recule de 0,4% sur le CAC 40, moins 0,5% sur l'Eurostock 50. Mais enfin, on préserve les seuils critiques. En tout cas, le seuil psychologique des 7000 points est maintenu et préservé. On va en parler. Romain Daubry avec nous, puis Bourse Direct. Bonjour Romain. On est ravis de vous retrouver. Oui, les marchés européens baissent un peu, mais on préserve donc les 7000. 7023 points en ce moment sur le CAC 40. Et une nouvelle fois, l'Europe recule moins que Wall Street. On a cette surperformance européenne qui tente à vouloir perdurer. Comment voyez-vous, d'un point de vue technique, la suite, Romain?
Bien, une phase de consolidation qu'on a entamée jeudi dernier avec une ouverture en baisse, un gap baissier et du volume un petit peu supérieur au jour précédent. Et depuis, on était toujours dans cette phase de consolidation. La dernière vague de la fameuse consolidation en question pourrait se mettre en place et a l'air de se déclencher aujourd'hui. Alors, on préserve pour l'instant effectivement le seuil important de 6997 sur le futur CAC 40, mais on a eu un échec contre 7084 qui était le niveau de réactivation haussière et on a rompu le petit canal aussi qui était actif depuis jeudi dernier, un canal de très court terme, donc des signaux d'accumulation qui laissent à penser qu'on va aller consolider un peu plus. Alors la dernière vague dans un mouvement comme ça, elle est souvent un petit peu plus violente que les autres. Pour l'instant ça ne se matérialise pas, on tient bien, même si effectivement les résultats de Microsoft pèsent, on est un peu fébrile en amont de rendez-vous majeurs. Microsoft ouvre le bal des GAFAM et des grandes technologies américaines, mais on va avoir beaucoup d'informations à venir dans les jours qui viennent. Il y aura quand même les chiffres de l'inflation vendredi prochain aux États-Unis, qui seront importants aussi. Effectivement, Tesla ce soir. Donc il y a pas mal d'éléments à suivre et beaucoup dans les 10 jours qui viennent. Et puis ça va s'étendre même sur 3 semaines, 1 mois en France et à Paris, avec les résultats des valeurs du CAC qui vont jouer aussi. Alors la cible idéale de cette consolidation pour nous, elle se situe aux alentours de 6865 points. On pourrait même tolérer des extensions jusqu'à 6820 points. C'est un mouvement qui est assez légitime compte tenu de l'accélération haussière qu'on a connue en début d'année, qui met du temps à se mettre en place, mais qui se fait de façon assez technique pour l'instant, avec des opérateurs qui sont quand même prudents, qui restent couverts, les portefeuilles sont couverts, il n'y a pas de complaisance du tout, même si on est monté rapidement. Et donc un manque d'intérêt du côté des marchés dérivés qui laissait à penser qu'effectivement il y a un peu de retrait de la part des opérateurs qui se manifesteront, nous on le pense, un peu plus bas pour retrouver des points d'entrée plus intéressants. Mais pour l'instant c'est une séquence de consolidation légitime et normale.
Du côté des différents titres, des sociétés cotées, lesquelles vous semblent présenter un potentiel ou envoyer des signaux techniques intéressants?
Pour l'instant, c'est plutôt l'heure à la consolidation, donc on est un peu en retrait, on a allégé des positions, on attend des points d'entrée. Ceci dit, on s'intéresse donc à regarder ce qui va se passer sur les valeurs technologiques et sur le S&P qui pourrait donner là une réactivation haussière. Le S&P évolue sous une ligne de tendance baissière depuis plus d'un an maintenant. Il a tenté de le déborder, il s'articule autour pour l'instant, c'est autour de 3956-3972 qu'il faut regarder. Et puis sur le Nasdaq, c'est pareil, 11638. Alors, on a des thématiques intéressantes du côté de l'Asie. On s'y intéresse au sens large avec la Chine ou pourquoi pas le Japon, sur lequel on a profité de points d'entrée. On peut travailler aussi ces secteurs-là avec des paniers de valeurs qui sont intéressants, avec des thématiques comme l'économie digitale ou encore l'intelligence artificielle, donc sous forme de fonds et de façon assez large. Pour les titres, on attendra un peu de repli pour se repositionner de façon plus agressive, ou alors au débordement en clôture de 7084 sur le futur CAC 40. C'est pas le scénario privilégié, encore une fois, on s'attend plutôt à pouvoir rentrer sur repli, mais pas très marqué. Il y a beaucoup d'opérateurs qui sont probablement passés à côté de la séquence de hausse. Il y a encore beaucoup de liquidités disponibles dans ce marché.
Romain Daubry avec nous depuis Bourse Direct. Merci beaucoup. Romain, on reviendra bien sûr sur les publications du jour qui déçoivent en l'occurrence. Merci. Celle de Boeing, repli d'un peu plus d'1% à Wall Street, Boeing en ce moment. Celle de Microsoft, repli d'un peu plus de 3% Microsoft en ce moment. On y reviendra après 17h avec tous nos experts marchés. Et vous avez peut-être vous-même, vous qui nous suivez, des questions ou des interrogations. N'hésitez pas à nous les envoyer. Amaury de Tonquédec, chaque soir, tente de vous répondre avec son expert. Bonjour Amaury.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Rendez-vous donc du lundi au jeudi après 18h tout à l'heure.
Exactement, et on parlera de l'Europe. L'Europe qui est sur tous les fronts. Quelle réponse face à l'Inflation Reduction Act? Et puis, comment réagir face à l'offensive des acteurs chinois sur le marché de l'automobile? Enfin, avec la volonté de réarmement suite notamment aux propos d'Emmanuel Macron, quelles seront les implications potentielles pour le secteur européen? Beaucoup de questions donc, et bien sûr, on vous répondra, notamment à Evelyne. Evelyne qui se demande si l'action Pierre et Vacances peut atteindre les 2 euros. Bauman qui suit depuis quelques années l'action Carmat et qui se demande simplement ce qu'on pense de cette société. Et enfin Michel qui a du Getlink en portefeuille. Faut-il qu'il en rachète, qu'il conserve ou qu'il vende? Réponse à 18h avec Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance. Et évidemment, si vous avez des questions, vous scannez ce QR code ou alors vous nous écrivez à bfmbourse@bfmbusiness.fr.
Amaury de Tonquédec tout à l'heure sur nos réseaux sociaux donc et son expert pour que vos questions trouvent leur réponse. À tout à l'heure Amaury, après 18h du lundi au jeudi. Tout de suite, notre club BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Ils sont là, nos experts crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Jonathan Ascovici, directeur général de StackInsat. Bonjour Jonathan.
Bonjour Guillaume.
J'ai une envie d'éternuer absolument atroce. Je vais essayer de tenir. Laurent Pignot aussi nous accompagne. Laurent, bonjour. Analyse pour Zone Bourse. Laurent, le Bitcoin toujours au-dessus des 22 000 $.
Et oui, le Bitcoin a enregistré une hausse de 32% sur les 2 dernières semaines. Par contre, cette semaine, le Bitcoin se stabilise un petit peu. Il respire autour des 22 500 $, juste en dessous des 22 500 $ actuellement. Mais alors maintenant, quels sont les scénarios qui se présentent? Alors déjà, si on prend un petit peu de recul, on peut pas l'ignorer. La flambée des cryptos s'inscrit dans une tendance un petit peu plus large sur les marchés traditionnels qui ont eux aussi connu un bon début d'année. Par exemple, le Nasdaq, donc l'indice boursier des valeurs technologiques américaines, reprend plus de 7% depuis le 1er janvier, malgré une journée un petit peu compliquée aujourd'hui. Mais pour affiner l'analyse et pour faire le lien avec le Bitcoin, je me suis penché sur les valeurs boursières ultra spéculatives, qu'on appelle communément les meme stocks. Et par exemple, l'ETF Rune il-même, qui réunit des valeurs comme AMC, Robinhood ou GameStop, entre autres, a augmenté de 20% sur ce début d'année, après s'être fait massacrer en 2022 de plus de 60%, un peu comme le Bitcoin. On pourrait aussi prendre le fonds ARK Invest Innovation de Cathie Wood, qui est en hausse de 17% sur ce début d'année. Donc au final, depuis le début janvier, le Bitcoin semble bénéficier un petit peu de ce regain d'appétit pour l'ultra-risque de la finance traditionnelle, comme en témoigne l'envolée des actions spéculatives. Alors concernant les niveaux techniques à surveiller sur le Bitcoin, à court terme, la prochaine résistance majeure que pourrait rencontrer le Bitcoin est la frontière des 24 500, 25 000 dollars, qui sera un gros palier à dépasser pour continuer à regagner l'optimisme des crypto-investisseurs. Mais la zone à dépasser qui permettrait d'inverser la tendance de fond baissière du Bitcoin est ce fameux niveau des 28 000, 30 000 dollars. Et sous ce niveau, nous ne pouvons pas dire que le marché haussier est définitivement relancé. Et puis attention, dans l'autre sens, si le Bitcoin repasse durablement en dessous des 21 000 dollars, cela invaliderait le rebond de ces derniers jours et donnerait l'avantage au camp baissier cette fois-ci.
Du côté de l'Ether, quel potentiel? On le disait, sur le Bitcoin, début d'année a été exceptionnel, cette hausse importante sur les 14 derniers jours. Est-ce que sur l'Ether, alors il en est de même, grosso modo, oui, mais est-ce que le potentiel est le même ou est-ce qu'il est supérieur, un peu moindre désormais? Comment est-ce que vous voyez ce rapport de force avec le Bitcoin, dont la dominance n'a cessé de croître d'ailleurs ces dernières semaines face aux autres cryptos?
Alors, au même titre que le Bitcoin, l'Ether bloque sous une résistance, sous cette résistance des 1660 $, après d'un début d'année, comme vous le disiez, là aussi exceptionnel pour la seconde crypto-monnaie du marché. La grosse zone à traverser pour l'Ether est comprise entre 1750 et 1850 $, une zone qui représente les plus bas annuels de 2021, mais aussi le crack de 2022 où l'Ether a plongé de plus de 40% en ligne droite. Il faut garder un œil sur le Bitcoin pour regarder la performance potentielle de l'Ether qui a tendance justement à surperformer dans les marchés haussiers, mais a aussi sous-performé le Bitcoin lorsque le Bitcoin plonge. Donc, ayons un œil sur le Bitcoin et il a un potentiel plus important dans un marché haussier, mais il va falloir passer des niveaux majeurs.
Laurent Pignot avec nous aujourd'hui pour Zone Bourse. Merci beaucoup Laurent de nous avoir accompagné en direct. Le Bitcoin qui tient et l'industrie des cryptos qui respire. Valentin, on va en parler. L'agrément PSAN restera finalement facultatif pour les nouveaux entrants qui souhaitent exercer en France.
C'était effectivement la grande peur de l'écosystème qui a trouvé un issue plutôt favorable. Hier soir, aux alentours de 20h à l'Assemblée nationale en séance plénière, l'agrément obligatoire voulu par le sénateur Moret n'aura pas lieu et ne sera pas donc obligatoire pour les entreprises non enregistrées à partir d'octobre, comme c'était potentiellement l'épée de Damoclès au-dessus de l'industrie de ces dernières semaines. À la place de ça, comme le souhaitait justement l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques, par la voix de Faucine Floiret notamment sur ce plateau, et d'autres acteurs de l'écosystème, ça sera plutôt un enregistrement renforcé qui sera mis en place pour accompagner l'écosystème jusqu'à l'arrivée du règlement MiCA en Europe dans 12 à 18 mois. Pour rappel, ça fait partie l'enregistrement du projet de loi, enfin de la loi Pacte depuis 2019, une fusée à deux étages. Donc d'un côté, l'enregistrement qui est surtout lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme et honorabilité du dirigeant, et l'enregistrement qui est
l'agrément.
L'agrément, merci Guillaume, qui était jusque-là facultatif, qui le restera donc et qui prendra toute sa place dans MiCA. Donc renforcement quand même de cet enregistrement, de la première étage de la fusée, pour accompagner l'industrie vers MiCA. Qu'est-ce que ça correspond notamment? Ça correspond à davantage de ségrégation des fonds, davantage de transparence sur les offres, sur la gestion de l'entreprise. Donc on va quand même vers plus de sécurité pour le secteur, mais on ne va pas ostraciser les entrepreneurs, on ne va pas ostraciser la France non plus de cette course à l'innovation dans l'Europe, puisqu'on rappelle effectivement le gouvernement, par la voix de Jean-Noël Barrot, qui d'ailleurs était hier au micro de l'Assemblée nationale pour continuer d'expliquer à nos députés les enjeux et le fait qu'il fallait laisser la respiration à ce secteur pour faire de la France le crypto hub européen. Donc c'est ça, une bonne nouvelle, mais c'est pas totalement fini, attention. Ah bon,
mais ils ont voté, ils ont voté.
Eh oui, mais ça s'arrête pas comme ça, Guillaume. Effectivement, il y a encore quelques petits points sur lesquels il faut faire attention, notamment parce que l'AMF va avoir plus de choix dans les regards qu'elle va porter à ces entreprises déjà PSAN, plus de nouvelles mesures conservatoires potentielles, et puis la possibilité pour le gouvernement sous 12 mois, de renforcer enregistrement renforcé, justement, de mettre une couche supplémentaire par ordonnance dans les 12 prochains mois. Donc attention quand même, même si c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, donc
on
a trouvé une forme d'entre-deux qui permettrait à l'écosystème de continuer de fleurir, d'attirer en France les talents, les idées d'investissement, tout en augmentant petit peu quand même le degré de sécurité et d'exigence pour ces nouveaux entrants sur le marché français, à travers un enregistrement plus en quelque sorte, mais qui n'irait pas jusqu'à l'agrément pour les nouveaux.
Exactement.
Et pour ceux qui sont déjà enregistrés, on maintient le calendrier de l'agrément à 2026.
On maintient effectivement MiCA, le règlement européen directement.
Jonathan Ascovici pour Stack Insight nous accompagne, ça tombe bien, il est concerné. Vous êtes enregistré EPSAN, Stack Insight. Quelle est votre réaction à ce vote hier de l'Assemblée nationale, cet entre-deux qui a été trouvé?
Alors merci Guillaume pour cette question. Je suis très heureux déjà de vous retrouver cette nouvelle année, donc déjà mes meilleurs vœux.
Meilleurs vœux à vous.
Voilà. Moi je vais comme d'habitude être un peu à contre-courant, et effectivement l'écosystème depuis quelques semaines était vraiment archi vent debout contre ce projet de loi. Moi en fait, contre l'avis général de l'écosystème, j'étais plutôt favorable. Et je suis plutôt favorable à plus de régulation sur ce secteur, parce qu'il faut pas oublier qu'on a vécu quand même des crises extrêmement graves en 2022. Évidemment, vos auditeurs sur BFM Crypto en sont bien conscients. Rappelez-vous de Terra Luna, rappelez-vous de Celsius, et rappelez-vous surtout de FTX. C'est un secteur qui déjà est complexe, peut être opaque pour les consommateurs. Donc c'est quand même très important, je pense, de ramener de la confiance dans un secteur qui en a perdu énormément en 2022.
Mais là-dessus, tout le monde est d'accord, plus dérégulation. Les acteurs de l'écosystème qui viennent ici sont à peu près tous d'accord là-dessus. De là à imposer l'agrément PSAN pour les nouveaux entrants dès le mois d'octobre prochain, c'est là-dessus qu'il y avait
un hiatus. Évidemment. Il y avait donc une nuance par rapport à ce délai. Le fait est que je pense que la dynamique qui est en cours sur le renforcement finalement des contraintes réglementaires pour les acteurs crypto est plutôt une bonne chose. C'est quelque chose que moi j'encourage, donc j'encourage encore une fois l'AMF à continuer finalement à nous réguler encore plus, parce que finalement cette confiance retrouvée est un élément marketing très important. Parce que nous, justement, en tant que PSAN régulé, donc enregistré, c'est un argument différenciant majeur. Et c'est pour ça que je vous l'annonce aujourd'hui sur BFM. Nous allons déposer un dossier d'agrément, donc dans le courant de cette année, pour justement essayer de rassurer l'écosystème, les consommateurs, sur justement une rigueur réglementaire quasi parfaite de Stack Insight, pour rassurer évidemment tout type de clients, à la fois les particuliers et les professionnels.
Et tenter de faire partie des premiers à pouvoir afficher cet agrément, histoire d'attirer aussi un petit peu de collecte, on imagine, mais c'est le jeu.
Exactement.
Ouais. Et vous êtes confiant donc. Enfin, vous pensez l'avoir quand il y a l'agrément, puisque ça y est, vous allez déposer le dossier. Vous l'aurez quand l'agrément? Est-ce que vous pouvez nous l'annoncer également en exclusivité sur BFM
aujourd'hui? Alors, Guillaume, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, comme je n'ai pas de boule de cristal sur la prévision du prix du Bitcoin. Malheureusement, je n'ai pas encore ce pouvoir.
Vous savez qu'il va monter, mais vous ne savez pas jusqu'où, en l'occurrence.
Exactement.
Vous êtes Bitcoin maximaliste.
Exactement. J'ai une conviction sur l'évolution du prix à très long terme, et je ne connais pas le prix à court terme du Bitcoin. Pour revenir et plus sérieusement à votre question, nous on va le déposer, on va déposer le dossier courant 2023. Après, et ça c'est clairement un problème que d'ailleurs j'aimerais souligner sur votre plateau, Guillaume, c'est vrai que ce renforcement finalement des contraintes réglementaires doit aussi s'accompagner des ressources en face sur l'AMF. C'est-à-dire que malheureusement, les équipes de l'AMF et de la CPR sont aujourd'hui assez réduites. Et c'est-à-dire qu'il faut d'un côté, évidemment, renforcer la régulation, comme je viens de le dire, mais il faut aussi que l'AMF et le régulateur suivent au niveau du traitement des dossiers. Parce que moi, effectivement, comme je le disais il y a quelques secondes, je veux déposer un dossier. Mais effectivement, pour répondre à votre question, ça dépend. Et finalement, c'est dans les mains de l'AMF et des équipes de l'AMF sur le délai de traitement de ce dossier. Donc moi, en fait, je peux vous garantir que je vais le déposer cette année.
Oui.
En revanche, quand est-ce que j'aurai le précieux sésame? Ça, je n'en ai aucune idée.
Et l'aurez-vous?
Ça dépend.
Et l'aurez-vous?
Et est-ce que je l'aurai? Évidemment, et ça, je laisse planer encore le doute. En tout cas, on va se donner les moyens d'y arriver. Et notamment, justement, une des problématiques, en tout cas, une des contraintes majeures de cet agrément, c'est soit, donc ça, j'imagine que vous en avez parlé régulièrement sur votre plateau, la fameuse responsabilité professionnelle, la RC Pro, qui est quasiment impossible à obtenir. En revanche, ce qui est possible d'obtenir, c'est des fonds propres. Et effectivement, l'AMF considère qu'il faut un minimum de fonds propres, en l'occurrence 150 000 euros, pour rassurer le régulateur. Et c'est pour ça qu'on va faire une levée de fonds cette année, Notamment pour.
C'est ça qui se cachait derrière tout ce narratif, je me disais.
Voilà, exactement.
Il fait des réponses longues, on est d'accord, Valentin.
Ouais. c'est vrai. Non, non, mais en gros.
Oui, très vite.
Et je vais faire très vite, Guillaume. On a besoin de fonds propres pour aller chercher cet agrément. D'accord. Et effectivement, c'est la raison pour laquelle on va aller faire une levée de fonds cette année.
Question de combien ?
Alors, 1 million d'euros.
D'accord. Question simple, réponse si possible courte. À votre avis, quel pourcentage des sociétés aujourd'hui enregistrées PSAN, et vous en faites partie, obtiendront l'agrément ?
Alors, déjà, il faut se positionner quand même sur un temps relativement long, vu qu'on vient de le voir, finalement, l'exigence, elle sera pour une mise en application en 2026. Donc finalement, d'ici là, finalement, il y aura le biais du survivant, c'est d'ici là, est-ce que tout le monde sera toujours en vie en 2026 ? Donc une fois qu'on a résolu cette problématique, effectivement, on peut se dire que si les acteurs ont tenu jusque-là, je pense que la majorité d'entre elles, donc ces sociétés, pourront aller chercher sereinement cet agrément.
Et les plus gros seront les premiers à pouvoir l'obtenir, parce que vous le disiez, c'est coûteux, vous allez réaliser une levée de fonds, il faut rassurer les assureurs aussi. Voilà. Est-ce que les plus gros, et suivez mon regard, je pense à Binance par exemple, seront sans doute les premiers à obtenir cet agrément ?
Alors, j'ai ouï dire, mon cher Guillaume, qu'effectivement, il y avait déjà des gros acteurs qui étaient sur le dossier. A priori, en 2023, nous devrions avoir les premières sociétés agréées.
Dès cette année ?
A priori. Ah. Donc, effectivement...
Valentin, vous confirmez ?
J'écoute.
Mais effectivement, voilà, c'est des rumeurs, évidemment. Je n'ai pas de nom à vous donner, mais probablement que ce sera des acteurs institutionnels, en tout cas des gros acteurs avec des moyens financiers presque illimités qui ont évidemment cet avantage concurrentiel d'avoir énormément de fonds propres, des équipes aussi compliance, presque une armée, ouais, je dirais, de compliance officers qui va boucler les dossiers le plus rapidement possible pour aller chercher cet agrément.
Agrément qui n'aurait néanmoins pas empêché une affaire FTX ou que ce soit, et pas non plus en France. L'affaire FTX aurait quand même eu lieu et beaucoup d'investisseurs se seraient fait pigeonner, agrément ou pas.
Alors, moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, Guillaume, parce que théoriquement, dans l'agrément, il y a la ségrégation des comptes. Et effectivement, FTX et notre ami SBF, justement, se servaient dans la caisse pour faire un peu n'importe quoi avec l'argent des clients. Et théoriquement, si l'agrément était en vigueur en France et que FTX avait été régulé en tant que société agréée PSAN,
je suis d'accord avec vous.
Ça ne serait pas arrivé.
Je suis d'accord avec vous, mais un investisseur depuis la France aurait pu investir quand même sur une plateforme qui n'est pas régulée en France et donc se faire pigeonner quand même.
C'est sûr. C'est pour ça que d'ailleurs on encourage les Français à
choisir les acteurs
vers des acteurs français régulés PSAN en France, encore une fois, dans une logique de réassurance, de confiance. Et effectivement, les consommateurs peuvent avoir confiance dans les sociétés qui sont régulées PSAN en France.
Et la grande nouvelle à travers le vote du Parlement hier, c'est que cette ségrégation dont vous nous parlez et qui n'existait pas chez FTX, qui est obligatoire pour l'agrément PSAN, cette ségrégation va aussi désormais faire partie des conditions pour obtenir l'enregistrement plus dont vous nous parliez.
Pour les nouveaux rentrants, effectivement, donc ça ne concernera pas forcément StackingSat directement. Cela étant, dans le cadre de l'entreprise de Jonathan, c'est résolu puisqu'il n'y a pas de détention des fonds, donc ça résout une grande partie des problèmes.
Ils n'ont pas d'argent, ça va.
Effectivement, sur les fonds propres, c'est 150 000 euros minimum. Les 150 000 euros, c'est pas tellement des fonds propres. C'est aussi et surtout pour tout ce qui est sécurité informatique. C'est aussi et surtout pour tout ce qui est compliance. C'est aussi et surtout pour tout ce qui va toucher à l'organisation de l'entreprise. Parce que les fonds propres, c'est aussi des pourcentages de ce que détiennent les entreprises. On a des entreprises qui détiennent des dizaines de millions d'euros, demain des centaines, et certaines déjà aujourd'hui des centaines, qui vont devoir faire des levées de fonds. Et effectivement, les VC, effectivement, les banques et tous ceux qui pourraient être attentifs à ce genre d'initiative sont frileux aujourd'hui. Donc, tu as raison de rappeler, Jonathan, l'importance d'aller vers cette réglementation, mais comme le soulignait Guillaume, pas aussi vite, pas en unilatéral, et surtout avec le soutien des effectifs de l'AMF et de la CPR. La CPR a déjà retiré deux enregistrements PSAN, ce qui prouve qu'ils font leur boulot. Donc il n'y a pas de problème au niveau de l'enregistrement, mais l'agrément, ça sera avec le reste et l'entièreté de l'écosystème désormais.
Valentin Demey, très diplomate quand même, vous l'entendez. Tu as raison, Jonathan, mais Guillaume aussi a raison, c'est très suisse.
C'est vrai.
C'est très suisse.
Non, c'est normal. C'est le journaliste, la neutralité et l'objectivité. Donc, ouais. Je te félicite, ben oui. Valentin.
On va parler de la Suisse, justement. Ben oui, vous m'avez tendu une perche, Valentin, puisque l'écosystème Web3 continue de s'étendre, notamment en Suisse. J'espère ne pas me tromper. Cette première banque privée au monde a tokenisé ses actions. Il s'agit de Cité Gestion. On est en Suisse.
Tout à fait. Bien vu.
J'étais plus très sûr en le disant.
Okay. Non, c'est tout bon. Effectivement, c'est une banque suisse qui existe depuis 2009, qui va tokeniser ses actions. Alors, la tokenisation, on en entend de plus en plus parler, ça s'est déjà fait, mais la subtilité dans cette information-là, c'est qu'elle se fait sur une blockchain publique. Navré Jonathan, ce n'est pas sur Bitcoin, c'est sur Ethereum, Bitcoin maximaliste que tu es. Mais effectivement, c'est sur la deuxième blockchain la plus capitalisée du marché, Ethereum. Donc c'est transparent, c'est accessible pour tout le monde et c'est surtout fait avec un standard qui va respecter la réglementation en vigueur en Suisse. Et c'est assez important de le souligner. Donc un contrat intelligent qui va pouvoir numériser, si on veut dire plus simplement, les actions de cette banque, c'est un pas de plus vers la transformation numérique, pour ne pas dire digitale, de ce monde un petit peu ancien qui va justement, par preuve de transparence, justement aussi pour réduire les coûts, ça permet de réduire des coûts, hein, de faire de la tokenisation. On estime en moyenne que c'est 20 à 30% des effectifs derrière les bureaux, les desks de trading et autres bureaux compliance qui seraient en moins dans une... C'était vraiment ça, poussé à la tokenisation extrême.
Ça vous fait plaisir, ça?
Non, c'est une information intéressante. Et effectivement, ça permet, d'un point de vue financier, de plaire aux banques, puisque la crypto les inquiète un petit peu. Donc, de ce point de vue-là, voilà, première société à le faire sur publiquement Ethereum avec toute la conformité du droit suisse.
Une banque privée, pour la première fois, choisi de tokeniser ses actions. C'est une première mondiale et cette première mondiale est suisse.
Avec Taurus.
Exactement. En face, Jonathan Ascovici, dont vous le disiez, son pédigré, c'est le Bitcoin. Lui, il est Bitcoin maximaliste. Quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Ils vont dans le mur, il n'y a que Bitcoin qui compte, il n'y a que Bitcoin qui sortira gagnant. Le dernier survivant, on le connaît, c'est Bitcoin.
Alors, oui. Mais encore une fois, je vais nuancer quand même mon propos dans le sens où, encore une fois, et je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau, moi je n'ai rien contre les cryptos de manière générale. Nous, ce qu'on défend en tant que maximaliste, c'est qu'il y a bien une différence entre Bitcoin et les cryptos. Ce sont deux choses totalement différentes. Bitcoin, encore une fois, a une spécificité qui est d'être un système monétaire décentralisé et un moyen de paiement qui a vocation à être utilisé comme une monnaie. Cette utilité, elle a déjà été démontrée dans deux pays que sont le Salvador et le Centrafrique. On a de nombreux autres pays qui vont, je pense, y accéder dans les prochains mois. On voit par exemple dans des pays africains comme au Nigeria, au Cameroun ou au Ghana que la requête « comment acheter du Bitcoin » a explosé ces dernières semaines, ces derniers mois, tout simplement parce que ces pays-là souffrent de défaillances financière ou monétaire, si on peut dire ça comme ça, et notamment des taux d'inflation qui sont délirants. Et effectivement, dans des pays comme ça, en voie de développement, Bitcoin est inéluctable.
Oui. Et l'Afghanistan aussi, où les gens tentent de se libérer des talibans financièrement par Bitcoin, entre autres.
Mais... Exactement. Encore une fois, c'est une des propriétés de Bitcoin, c'est sa non-censurabilité. Et c'est aussi la capacité à faire des transferts d'argent qui sont très simples. Avant, par exemple, en Afghanistan, ils utilisaient beaucoup Western Union, mais depuis l'arrivée des talibans, Western Union a été banni. Et donc, beaucoup de la population afghane, finalement, qui a besoin d'argent, finalement, est obligée de passer par des solutions comme celle de Bitcoin pour tout simplement avoir des fonds.
Et vous devez être un homme heureux aujourd'hui, puisque Bitcoin maximalise, vous croyez dur comme fer, hein, dans l'avenir du Bitcoin. Sa dominance dans l'écosystème crypto s'est nettement renforcée après cet hiver crypto. On est toujours un peu dans l'hiver crypto, mais voilà, dominance du Bitcoin qui s'est renforcée, Bitcoin qui repart assez nettement à la hausse. On est presque à 23 000 dollars malgré l'affaire FTX, malgré Genesis qui se place à son tour en chapter 11. Pour autant, pour ce qui concerne sa qualité d'actif refuge face à l'inflation, on attend de voir quand même. Parce que là, l'inflation, elle est là, ça n'a pas marché. Hein. Bitcoin a reculé quand même.
Alors, c'est vrai, Guillaume, vous me challengez quand même souvent sur cette question du prix. Et effectivement, je vais vous répondre pour une fois. Parce qu'effectivement, en général, je dis que je ne m'intéresse pas au prix et que, de toute façon, le prix ne fera que monter dans une vision à long terme parce que son utilité et son usage ne va faire que progresser dans les prochaines années. Mais regardez un peu en hauteur, mon cher Guillaume. Et vous allez voir que, par exemple, depuis que StackInsight a été lancé le 1er octobre 2020, Bitcoin était autour de 10 000 dollars. À combien nous en sommes aujourd'hui? Excusez-moi, Guillaume.
Presque 23 000.
Et voilà. Donc, encore une fois, dans une vision à long terme, où là, on n'est que sur 2 ans, on a déjà doublé de prix. Donc, en termes de préservation du pouvoir d'achat, plus que une notion de protection contre l'inflation, c'est plus une protection de votre patrimoine à long terme contre la perte du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires.
Si vous avez acheté au bon moment, on est d'accord.
Il faut acheter régulièrement une petite somme à travers du dollar cost averaging. C'est exactement ce que propose.
Et là, Bitcoin remonte avec aussi l'idée que les banquiers centraux vont moins relever leurs taux. Donc, c'est très banque centrale dépendant.
Alors,
on a fini. Je voulais que ce soit le mot de la fin, mais je vais vous laisser le mot de la fin.
Non, mais oui, après, effectivement, sur des variations à court terme, Guillaume, les banques centrales, effectivement, peuvent avoir une action sur les prix, mais il faut se positionner sur une vision à long terme et surtout baser cette réflexion sur l'usage et l'utilité de Bitcoin qui ne fait que progresser depuis plusieurs mois.
Le nombre de détenteurs de crypto au sens large et de Bitcoin a progressé encore l'an dernier malgré l'hiver crypto et la chute des cours. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Jonathan Erskovici, StackInsight et Valentin Demey pour Crypto. C'était nos deux guides dans cet univers.
Merci Guillaume.
Salut messieurs, bon retour. Dans un instant, la séance du jour sur les marchés financiers. Le CAC 40 est toujours en petite baisse. Nos coéquipiers du club viennent pour nous en parler dans un instant. On va vivre la clôture en direct et anticiper la suite sur les marchés. Revenir aussi sur Microsoft, titre en repli de plus de 3% en ce moment à Wall Street. La déception sur la publication et les perspectives, surtout dans le cloud pour Microsoft. Et puis Boeing aussi qui déçoit, ce titre Boeing en baisse désormais de 2,8%. On s'en reparle donc juste après la pause. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.